Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission « Si ma mémoire est bonne ». Je vous propose aujourd'hui de continuer notre chevauchée en compagnie de Perceval le Gallois, le chevalier de la table ronde, toujours avec les mots de Jacqueline Mirande. Sur le sentier que suivait Perceval, marchait un peu devant lui un cheval si maigre qu'il n'avait que le cuir sur les os. Ses crins étaient tendus, ses oreilles pendaient, il paraissait ne plus pouvoir aller très loin. Pourtant, il portait une fille. Échevelée, sans manteau ni voile, la peau brûlée par le soleil et la neige, elle était vêtue d'une robe rapetassée en six endroits, trouée à d'autres. Malgré cela, il lui restait des traces d'une grande beauté. Perceval courut vers elle. « Belle, Dieu vous protège, comment êtes-vous en ce triste état ?» Elle baissa la tête et dit tout bas, « Fuyez et laissez-moi en paix. Fuyez, vous dis-je, moi, fuir. Pourquoi ? Qui me menace ? L'orgueilleux de la lande, s'il vous trouve ici, vous tuera pour m'avoir adressé la parole. » Elle n'avait pas achevé sa phrase que l'orgueilleux, sortant du bois et soulevant un nuage de poussière et de sable, arrivait sur eux et criait « Malheur, à toi qui t'es arrêté près de cette fille, tu vas mourir. Mais avant de te tuer, je vais t'expliquer pourquoi je la traite ainsi et lui inflige cette vie. Je l'aimais plus que tout au monde. Or, un jour que j'étais parti chasser, qu'elle était seule dans un pavillon, jeune garçon gallois passa et lui prit un baiser. Elle l'avoua, disant que c'était des forces, qu'il n'avait rien fait de plus, qu'il ne croira pas moi. Elle n'aura ni robe neuve, ni bon cheval, ni toi, et se nourrira de ce qui pousse dans les bois. Jusqu'à ce que je retrouve ce garçon, l'oblige à avouer et le tue. » Perceval avait écouté avec beaucoup d'attention. Il se souvint brusquement de ce pavillon où il avait, en effet, un jour embrassé une fille par surprise. Elle s'en était montrée très irritée, la misère, la faim l'avaient tant changé qu'il ne l'avait pas reconnue. De son côté, comment aurait-elle imaginé sous l'armure vermeille de ce beau chevalier le jeune garçon gallois en côte de cuir de serre et chemise de chanvre ? Ami, dit Perceval, elle vous a livré. C'est moi qui lui pris ce baiser par surprise, c'est tout ce que je fais, croyez-moi, enlever la pénitence. Elle a payé assez cher. Ainsi tu avoues, cria l'orgueilleux, fou de colère, tu mérites la mort. La mort n'est pas si près de moi que tu le penses, répliqua Perceval, que la colère gagnait aussi. Et bientôt, ils se heurtèrent avec une telle violence que leurs lances volèrent en éclats, que tous deux tombèrent de cheval, mais ils se relevèrent et, tirant leurs épées, se portèrent des coups furieux. À la fin, l'orgueilleux de la lande eut le dessous et demanda grâce. Fais d'abord grâce à ton ami, ordonna Perceval. Elle n'a pas mérité d'être traitée comme tu le fais, je peux te le jurer. L'orgueilleux de la lande, qui aimait la jeune fille plus que la prunelle de ses yeux, dit j'ai souffert autant qu'elle de ce qu'elle endurait, et je suis prêt à réparer. Fais la baigner et reposer jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau en pleine santé, puis, bien parée, bien vêtue, mène-la au roi Arthur. Salue-le de ma part et mets-toi à son service. Le même soir, le chevalier fit baigner son ami, et dans les jours qui suivirent, l'entoura de tant de soins qu'elle recouvra toute sa beauté. Ils partirent alors tous deux à Carlion, où le roi Arthur tenait sa cour. Il y avait fête ce jour-là et la reine Guenièvre se trouvait aux côtés du roi. L'orgueilleux de la lande la salua, conta son histoire. Tous écoutaient avec grande attention. Gauvain, le neveu du roi, assis à sa droite, s'écria « Qui est ce jeune homme qui a vaincu aux armes un chevalier tel que l'orgueilleux de la lande? Dans toutes les îles de la mer, aucun ne peut se comparer à lui. » Bon neveu, répondit le roi, vous êtes depuis peu à ma cour, vous ne connaissez pas l'histoire de ce jeune garçon gallois qui tua d'un coup de javelot le chevalier vermeil de la forêt de Quincoroy. J'ignore tout de lui jusqu'à son nom, mais je n'attendrai pas plus longtemps pour partir à sa recherche. Je ne reposerai pas deux nuits de suite au même endroit tant que je ne l'aurai pas vu. S'il est vivant, en mer ou sur terre. » Dès que le roi eut parlé, chacun à sa cour sut qu'il n'y avait plus qu'à se mettre en route. On rassembla fiévreusement provisions et bagages, tentes et pavillons, couvertures et oreillers. Et le roi Arthur quitta Carlion, suivi de ses barons, de la reine, elle-même entourée de ces demoiselles. Le soir venu, on logea dans une prairie à la lisière d'un bois. Le lendemain matin, la neige recouvrait le sol. Perceval, levé de bonne heure, à son habitude, avait repris la route. Le hasard le mena droit à la prairie enneigée où le roi campait avec sa cour. Il était encore assez loin des tentes lorsqu'il aperçut un vol d'oies sauvages. Elle fuyait devant un faucon qui fendait l'air pour les attaquer. L'une d'elles s'égara, le faucon l'abattit et repartit. Perceval accourut, l'oie était blessée au cou. Elle saignait. Trois gouttes de sang rougissaient le blanc de la neige. À l'arrivée de Perceval, elle s'envola, lui, appuyé sur sa lance, regardait le sang et la neige. Il revoyait le visage de Blanchefleur, le rouge des lèvres, la blancheur du teint. Il en oubliait où il était, rêvait à celle qu'il aimait et les heures s'écoulaient. Thank you. le jour venait tout à fait, les écuyers sortant des tentes virent Perceval perdu dans sa rêverie, ils crurent qu'il sommeillait. Le roi Arthur dormait encore, sa grand-mère, un des chevaliers de sa suite le réveilla, sire. Dehors, sur la lande, il y a un chevalier qui sommeille sur son cheval. Le roi ordonna qu'on l'amena aussitôt. Sagremort s'arma, prit son cheval et rejoignit Perceval. « Ami, dit Sagremort, il vous faut venir à la cour. » Perceval, tout à sa rêverie, ne voyait ni n'entendait, il ne bougea ni ne répondit. Sagremort renouvela sa demande en vain. La troisième fois, il se fercha et cria « Vous y viendrez de gré ou de force !» Et prenant du champ, il lança son cheval en direction de Perceval. Brutalement, arraché à ses pensées, ce dernier s'élança à son tour. Le choc fut si violent que la lance de Sagremort se brisa et qu'il tomba. Son cheval s'enfuit, regagna le camp sous les yeux des gens qui se levaient et sortaient des tentes. Que se moqua de Sagremort plus fort que tout le monde, si bien que le roi, irrité, lui dit « Allez, allez-y donc vous-même, nous verrons si vous nous ramenez ce chevalier inconnu. » « Sire, dit que, je vous l'amènerai, qu'il le veuille ou non, il faudra bien qu'il nous dise son nom. » Perceval contemplait toujours les gouttes de sang sur la neige, pensant à Blanchefleur et oubliant le reste. Que, armé à cheval, lui cria de joie, vassal, venez au roi ou vous le paierez cher. Perceval, s'entendant menacé, courut vers que, en éperonnant sa monture. Que frappa si violemment que sa lance vola en miettes, comme de l'écorce. Mais Perceval, le frappant sur le haut de son bouclier, le désarçonna, que tomba sur une roche, se déboîta à la clavicule, se brisa l'os droit. Il s'évanouit de douleur et son cheval revint au grand trot vers les tentes. En le voyant sans son maître, tous s'inquiétèrent. On trouva le sénéchal évanoui et Perceval, appuyé de nouveau sur sa lance, et retourné à ses rêves. Le blessé fut porté à la tente du roi, qui le réconforta de son mieux, le confia à un médecin très capable, Gauvin, de neveu du roi, nouvellement arrivé à sa cour, et qui était jeune et gai, mais chevalier courtois par excellence, dit au roi, « Sire, il n'est pas juste qu'un chevalier se permette, comme ces deux-là l'ont fait, d'arracher un autre chevalier à ses pensées. Peut-être, songeait-il à son ami et souffrait-il. Si vous le permettez, j'irai à mon tour le trouver et tâcherai de vous le ramener. Le roi l'ayant permis, Gauvin s'en alla donc. Le soleil commençait à faire fondre la neige tachée de sang et Perceval émergeait lentement de son rêve de Blanchefleur. Gauvin s'approcha et dit avec calme « Je suis envoyé par le roi qui vous prie de venir lui parler. »« Il en est déjà venu deux, répondit Perceval. Je ne les ai pas suivis, j'avais devant moi le visage de mon ami la belle que je ne voulais pas quitter. »« Mais dites-moi, c'est donc la cour du roi Arthur qui est là et que le sénéchal oui. » Et vous venez de lutter avec lui, vous lui avez brisé le bras droit et déboîté la clavicule. Voilà donc vengé la fille qu'il avait frappée. Gauvin tressaillit. Ah, c'est vous que le roi cherche entre tous. Quel est votre nom ? Perceval est le vôtre, Gauvin. Perceval tout joyeux s'écria. J'ai entendu parler de vous, je suis prêt à vous suivre, je serai fier que vous soyez mon ami. J'en aurai plus de plaisir encore que vous. Et les voilà dans les bras l'un de l'autre. Du camp, on avait suivi leur mouvement, vu leur gaieté. Les chevaliers emportèrent la nouvelle au roi. Voici votre neveu Gauvin qui revient. Le chevalier avec lui, tous deux ont l'air de marcher dans l'allégresse. Et chacun de bondir hors de sa tente pour aller au-devant d'eux. Le roi lui-même se leva afin de les accueillir. Grand merci, beau neveu. Et vous, amis, soyez le bienvenu. Comment dois-je vous nommer, sire au roi, dit Perceval. J'ai pour nom Perceval, le Gallois. Ah, Perceval. Comme j'ai regretté quand je vous vis pour la première fois de ne vous avoir pas retenu à ma cour, mais j'ai su vos exploits, entendu la prédiction, la fille et le fou ne se sont pas trompés, vous avez vérifié leur prophétie. Et il ne tient qu'à moi, vous ne partirez plus. Perceval exauça quelque temps le désir du roi Arthur, il devient chevalier de la table ronde comme son ami Gauvin. Mais le regret le tenaillait. Il connaissait à présent l'histoire de la lance mystérieuse de la goutte de sang. C'était elle qui avait percé le côté du Christ sur la croix. Et quant au Graal, la coupe sainte qui avait recueilli le sang du Christ, il voulait plus que tout le monde la conquérir. Pour cela, il fallait retrouver la demeure du roi pécheur. Dès qu'il le put, il repartit. Mais le château où il avait couché un soir était un enchantement, il avait disparu. Perceval s'obstina dans sa recherche. Ce fut au cours d'une de ses absences que se présenta à la cour un jeune garçon nommé Lancelot du Lac. Ses aventures allaient égaler celles de Perceval, et à son tour, il rentrerait dans la légende des chevaliers de la table ronde. Je vous propose une pause musicale. Thank you. de Lancelot à la cour du roi Arthur. Un jour, que le roi Arthur chassait dans la forêt avec son neveu Gauvain, que le sénéchal et plusieurs autres chevaliers, ils virent s'avancer vers eux un étrange cortège. Les montures des chevaliers, qui le composaient de leurs armures, leurs vêtements, tout était d'un blanc brillant de neige. Ils escortaient un jeune homme et une dame, également vêtus de blanc et tous deux d'une grande beauté. La dame, en voyant le roi, s'avança vers lui, le salua. Le roi répondit courtoisement à son salut, lui demanda qui elle était. Elle dit, avec un sourire mystérieux, « On me nomme la Dame du Lac. Vous m'avez connue sous un autre nom, mais là n'est pas la question. Je vous amène ce jeune homme pour que vous le fassiez chevalier quand il le demandera. Il a déjà ses armes. » Le roi était à la fois étonné de la demande et curieux de savoir qui pouvait être la Dame du Lac. Toutefois, il accepta la dame, sans plus rien ajouter, fit de brefs adieux au jeune homme, s'en alla, escorté de ses cavaliers. Le roi confia le nouveau venu à son neveu Gauvain, qui, après la chance d'amener chez lui, tenta d'en savoir plus. En vain, le jeune homme ne répondit à aucune question. Mais après le repas qu'ils avaient pris ensemble, il demanda tranquillement à être armé chevalier le lendemain, car c'était la fête de la Saint-Jean, et le roi Arthur devait ce jour-là adoubler plusieurs chevaliers. Gauvain se récria, la préparation d'ordinaire était longue, elle pouvait durer jusqu'à 2 années, et lui en un seul jour, mais le garçon se borna à répéter, « Je n'ai besoin d'aucune préparation, je suis prêt. » Et cela, avec tant de ténacité qu'à la fin, Gauvain céda, il le conduisit auprès du roi. Fidèle à la promesse faite à la Dame du Lac, Arthur accepta donc, au mépris de toutes les règles, de faire chevalier le lendemain cet étonnant garçon. Il passa la nuit, selon l'usage, en prière et méditation. Le lendemain, dans la plus grande église de la ville, il vint s'agenouiller près de l'autel avec les autres. Et devant le roi Arthur, il prêta à voix haute, serment de fidélité. Le roi lui passa une à une les pièces de son armure. Elles étaient d'une grande beauté, blanche et argent. La dernière partie de la cérémonie, la remise de leur épée au nouveau chevalier, avait lieu dans la grande salle du château. La reine Guenièvre et les dames de la cour étaient curieuses de voir enfin ce mystérieux jeune homme dont tout le monde depuis la veille parlait. Qui était-il? Comment se nommait-il? D'où venait-il? Nul ne le savait. Thank you. Quand il parut sous son armure blanche qui rose et sa blondeur et sa beauté, tous les regards se fixèrent sur lui avec admiration. Mais lui ne voyait que la reine Guenièvre. Il venait sur le champ d'en tomber éperdument amoureux. À l'instant même, il se jura qu'elle serait sa dame, elle seule. Il se fit que dans le remue-ménage de la cérémonie, le roi omit de remettre son épée au nouveau chevalier. Le jeune homme ne la réclama pas. Il ne quittait pas des yeux la reine. Le banquet commençait quand soudain arriva un messager hors d'haleine, couvert de poussière, qui se jeta aux pieds du roi. La dame de Nahaut m'envoie vous demander secours et est en grand danger, sa terre ravagée, son château assiégé, elle n'a plus qu'un espoir. Son ennemi propose un combat singulier entre un de ses hommes et les chevaliers qu'elle choisira. De l'issue de l'épreuve dépendra son sort, elle vous supplie de désigner le meilleur que vous aurez, car le combat sera rude. Celui que l'on nommait, faute de savoir son nom, le chevalier blanc, s'avança vivement et dit au roi : J'irai. Vous êtes trop jeune, répondit le roi, trop inexpérimenté, vous ferez tuer pour rien. Mais le chevalier insista tant qu'à la fin, là encore, le roi céda. Au moment de partir avec le messager, il se rendit auprès de la reine qui se reposait dans son appartement. Il mit un genou à terre et dit : Je ne veux pas partir sans vous dire adieu et sans vous dire demander d'accepter d'être ma dame. Le roi Arthur a oublié de me ceindre l'épée, faites-le vous-même et je jure, moi, Lancelot du lac, d'être pour toujours à votre service. La reine émue prit l'épée qu'il lui tendait, acheva l'adoubement du chevalier. Lancelot rejoignit le messager et partit au château de la dame de Nahaut. La reine Guenièvre pensait Lancelot du lac. C'est donc là son nom, un nom étrange, d'où lui vient-il et qui est-il ? Réellement, c'était une étrange histoire qui datait de 15 ans. 15 ans en Petite-Bretagne, le roi Ban de Benoïc et sa femme, la reine Hélène, portant le petit Lancelot et accompagné d'un seul écuyer, fuyaient sur un chemin de terre à travers les marais, fuyaient leur royaume ravagé par les troupes victorieuses de leur redoutable ennemi. Il venait de quitter en secret le dernier château qui ne fut pas tombé en son pouvoir, Ban de Benoïc. Partait demander de l'aide à son suzerain, au roi Arthur. Ah, ils se trouvèrent au sein d'une épaisse forêt, devant une clairière où était un lac. Et une femme très belle, vêtue de blanc, s'empara de l'enfant, serré contre son cœur et s'enfonça avec lui dans l'eau du lac. Pour la suite des aventures de Lancelot du Lac et des autres chevaliers de la Table Ronde, je vous conseille vivement de lire ou de relire les récits qui en ont été faits, de si belles légendes qui ont traversé les siècles et les générations. Je vous remercie de m'avoir écouté.